Les rois Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent réveil en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson à la une de notre émission.
Pierre Nkurunziza reporte les élections législatives d'une semaine et menace les médias.
Lorsqu'il n'y a pas de débat sur des médias indépendants, libres, c'est inconcevable et incroyable qu'on passe à une élection dans cette situation, que les conditions sécuritaires ne le permettent pas en ce moment.
Déception de l'opposition guinéenne après la rencontre Alpha Condé, Sélou d'Alain Diallo.
Stupeur avec l'arrivée au Parlement de la CDAO du Libérien Prince Johnson, ancien chef de guerre sanguinaire. Est-ce la promotion de l'impunité dans les instances africaines?
Sa responsabilité en tant que chef de guerre a été engagée, et je dirais lourdement engagée, tout le monde le sait. Engagée également sa responsabilité dans la mort atroce de Samuel Doudou.
Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le journal des sports bisbille entre les fédérations de football israélienne et palestinienne. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Au Burundi, les forces de l'ordre ont durci la répression hier lors d'une nouvelle journée de manifestation dans Bujumbura. Le pouvoir burundais a annoncé le report au 5 juin des élections législatives et communales qui étaient prévues le 26 mai. C'était l'une des demandes des chefs d'État de la sous-région qui sont toujours attendues dans la capitale burundaise. Hier, le président Pierre Nkurunziza a de son côté assuré que la sécurité régnait dans la quasi-totalité du pays. Morgane Guiriec.
S'adressant à la nation pour la troisième fois depuis l'échec du coup d'État le 13 mai, Pierre Nkurunziza a assuré que la paix et la sécurité règnent sur 99,9% du territoire burundais. Ce qu'il qualifie d'insurrection ne toucherait que quatre quartiers de Bujumbura. Il a aussi mis en garde la presse. D'ailleurs, les correspondants étrangers sont convoqués ce matin au Conseil national de la communication, l'organe de régulation. Pour l'opposition et la société civile, le report des élections législatives et communales au 5 juin ne change rien. Et les deux groupes entendent continuer à manifester contre le troisième mandat. Plusieurs quartiers de Bujumbura sont depuis le 26 avril le théâtre d'un vaste mouvement de contestation. Hier, des policiers armés de Kalachnikov ont investi le quartier de Musaga. À Nyakabiga, un soldat a été accidentellement tué par des tirs de policiers. Les violences quotidiennes ont fait plus d'une vingtaine de morts au Burundi.
Toutes les infos sur la crise burundaise à retrouver sur notre site web voaafrique.com. Et cinq jours après la signature d'un accord de paix au Mali, la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSMA, a été visée hier à Bamako. L'attaque a fait un blessé, mais de l'avis des enquêteurs, le bilan aurait pu être plus lourd.
Par ailleurs, l'armée française affirme avoir tué deux chefs djihadistes, Amada Ag Hama alias Abdelkrim le Touareg et Ibrahim Ag Inawalen, dit Bana, auraient été tués selon Paris par les forces spéciales françaises dans la nuit de lundi à mardi. Abdelkrim le Touareg avait notamment revendiqué l'enlèvement et l'assassinat de deux journalistes français de la radio RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en novembre 2013 à Kidal.
Mauvaise nouvelle pour la Guinée et la Sierra Leone, puisque ces deux pays ont connu une forte hausse des cas d'Ebola la semaine dernière. Clermont-Ingibourg, c'est ce qui ressort des dernières données de l'Organisation mondiale de la santé.
35 nouveaux cas ont été rapportés la semaine dernière en Guinée et en Sierra Leone, contre 9 seulement au cours de la semaine précédente. C'est la plus forte hausse depuis plus d'un mois. La Guinée, où l'épidémie a débuté fin 2013, a été la plus durement touchée la semaine dernière, avec 27 cas rapportés contre 7 la semaine précédente. Si le Libéria voisin a été déclaré exempt de la maladie le 9 mai dernier, ce n'est pas le cas de la Sierra Leone qui a déclaré 8 nouveaux cas. Et pour la première fois en 5 semaines, un professionnel de la santé qui travaillait dans un centre de traitement d'Ebola près de Freetown a été déclaré positif au virus de la fièvre hémorragique.
Le roi du Maroc est arrivé hier soir à Dakar, première étape d'une tournée dans 3 autres pays d'Afrique subsaharienne. Mohamed VI a été accueilli à l'aéroport par le président Macky Sall et des membres de son gouvernement. Le souverain marocain doit rester au Sénégal une semaine. Les dirigeants sénégalais et marocains doivent signer une quinzaine d'accords de coopération lors de cette visite, a indiqué mardi Macky Sall à l'agence de presse sénégalaise.
J'ai été déçu, ce sont les mots du chef de l'opposition guinéenne, Sélou d'Alain Diallo, à l'issue de sa rencontre hier avec le président Alpha Condé. Depuis plusieurs semaines, l'opposition réclame un report de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, ce que refuse catégoriquement le pouvoir. Salwa Jafari.
C'est moi seul qui ai parlé. J'ai été déçu qu'on n'ait pas d'échange.
Je m'attendais à mieux que ça, a déclaré le chef de l'opposition, Sélou Dalaïn Diallo, à sa sortie. Alpha Condé m'a dit « Je suis là pour t'écouter, je vais confronter tes propositions et observations à celles de la mouvance et moi, en tant que président de la République, au-dessus de la mêlée, je prendrai une décision. » Au cœur de la discorde, la tenue des élections. Le président Condé insiste sur la tenue des élections présidentielles en octobre, avant la tenue des élections locales. L'opposition, de son côté, dénonce ce qu'elle décrit de ruse. Elle réclame la tenue des communales prévues en mars 2016, avant l'élection présidentielle, par crainte que le personnel communal, nommé par le pouvoir, n'influence le scrutin en faveur du régime en place.
Greenpeace dénonce la pêche illégale chinoise en Afrique de l'Ouest. Des flottes chinoises pêchent illégalement au large des côtes ouest-africaines, certaines allant jusqu'à se faire faussement localiser au Mexique, a dénoncé Greenpeace en présentant à Pékin les résultats d'une grande enquête. Aucun commentaire pour le moment des autorités chinoises.
Au Nigeria, près de 500 officiers et soldats sont jugés pour indiscipline quelques mois après la condamnation à mort de 66 militaires accusés de mutinerie. Bagassi Koura.
Le porte-parole de l'armée nigériane, Sani Ousmane, n'a pas précisé les charges retenues contre 473 soldats traduits devant une cour martiale. Il a simplement déclaré que l'accent est mis sur la discipline et le professionnalisme. Un de leurs avocats, Maître Femi Falana, affirme que certains sont accusés de mutinerie, d'autres de lâcheté et désobéissance. Maître Falana avait défendu 54 soldats condamnés à mort en décembre et 12 autres en septembre. Le haut commandement militaire n'a pas encore donné son feu vert pour que ces soldats soient passés devant le peloton d'exécution. L'année dernière, des soldats postés à Maïdougouri avaient refusé d'aller combattre les islamistes, mettant en avant leur manque d'équipement. Leurs épouses avaient même organisé une manifestation devant une caserne pour dénoncer l'utilisation de leur mari comme chair à canon face à des insurgés mieux armés.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, juge inacceptables les combats qui se poursuivent entre forces gouvernementales et rebelles dans les provinces sud-soudanaises d'Unité et du Haut-Nil. Monsieur Ban demande au président Salva Kiir et à son adversaire, Riek Machar, de cesser immédiatement toutes les opérations militaires et de respecter leur obligation de protéger les civils.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les djihadistes du groupe État islamique contrôlent la quasi-totalité de Palmyre en Syrie, et ce après un retrait massif des forces gouvernementales des différents secteurs de cette ville. C'est ce qu'affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La directrice générale de l'UNESCO s'est dite vivement préoccupée par la situation dans la cité antique de Palmyre et a appelé à la cessation immédiate des hostilités.
Le président américain Barack Obama reçoit tout à l'heure à la Maison-Blanche son homologue tunisien, Beji Caïd Essebsi. Ce dernier espère une hausse sensible de l'aide militaire américaine pour lutter contre la menace djihadiste alimentée par le chaos en Libye voisine. Si les États-Unis et d'autres aident la Tunisie, oui, nous pouvons devenir un modèle, a-t-il averti mercredi au premier jour de sa visite.
À Washington, le gouvernement américain a publié hier plusieurs documents trouvés lors du raid de 2011 au Pakistan, au cours duquel les forces américaines ont tué le leader d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Les détails avec Eddie Isango.
Parmi les documents déclassifiés du courrier personnel adressé aux membres de la famille Ben Laden, une liste des livres en anglais retrouvés dans la parcelle, diverses études, des programmes d'ordinateurs et autres manuels techniques et des documents d'autres groupes militants. Les cinq dernières années de sa vie, Ben Laden était hanté par une appréhension au sujet de la technologie avancée utilisée pour les traquer. Il avait donné à sa famille des instructions détaillées sur comment éviter de donner aux agents américains des pistes qui pouvaient conduire jusqu'à lui. Le défunt leader d'Al-Qaïda prenait d'extrêmes précautions, demandant par exemple à une de ses femmes de ne rien emporter par crainte de puces miniaturisées que les services des renseignements iraniens pourraient, selon lui, glisser dans ses bagages à son insu.
La Malaisie annonce la mobilisation de la marine et des gardes-côtes pour localiser et porter secours aux migrants de l'ethnie Rohingya piégés à bord de bateaux en perdition en mer d'Andaman. La Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie ont accueilli au total quelques 3000 naufragés en quelques jours et d'après Kuala Lumpur, environ 7000 personnes dérivent encore en mer.
Et ici aux États-Unis, le Nebraska a définitivement voté pour l'abolition de la peine de mort. La peine capitale est remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité. Dans les faits, 29 États américains, la capitale, Washington et le gouvernement fédéral n'utilisent plus le châtiment suprême.
C'est la fin de ce journal en ce jeudi matin sur VOA Afrique. On parle économie tout de suite, la Minute Éco avec Félix Yepassis Zemrou.
Au Gabon, un projet économique de Singapour soulève la controverse. Face à la promesse de 400 millions de dollars d'investissement d'une usine de transformation du caoutchouc et de 5 000 emplois à terme, le pouvoir gabonais a ouvert ses portes au géant singapourien Olam. Les défenseurs de ce projet colossal y voient une promesse de diversification d'une économie de rente pétrolière à bout de souffle. Ses détracteurs critiquent son impact environnemental, social et culturel et parlent de gaspillage de la forêt. Success story au Cameroun avec le groupe Bocom en pleine expansion. Il s'implique aujourd'hui, entre autres, dans la transformation sur place des matières premières, les écosystèmes industriels, la préservation de l'environnement, le soutien aux communautés locales et le développement de l'Afrique en général. M. Dieudonné Bougne manœuvre à ses débuts et aujourd'hui patron de multiples sociétés, est le patron de cette réussite.
Nous sommes très avancés dans les mines où, au Cameroun, nous avons 14 permis de recherche minière. De 1000 km carrés. Aujourd'hui, on est en train de faire le forage pour vraiment quantifier les gisements. Aujourd'hui, on cherche les investisseurs qui sont intéressés dans les mines à venir nous accompagner dans ce grand projet.
La ville de Los Angeles a voté une mesure importante pour relever le niveau de vie de ses habitants les plus modestes en adoptant une augmentation du salaire minimum de 9 à 15 dollars de l'heure. Cette hausse du salaire minimum intervient après 8 mois d'intenses débats et 3 études pour anticiper son impact économique.
Merci Félix. Sans transition, place au sport dans ce studio. Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
On commence par le refus de la Fédération palestinienne de football de retirer sa demande soumise au prochain congrès de la FIFA pour une suspension de la Fédération israélienne.
Oui, le chef de la Fédération palestinienne, Djibril Rajoub, l'a fait savoir lors d'une conférence de presse aux côtés du président de la FIFA, Sepp Blatter, hier à Birée, près de Ramallah. Cette décision signale l'échec des efforts du président de la FIFA en vue de trouver un compromis. Les Palestiniens ont aussi rejeté son idée d'un match entre leur sélection nationale et celle d'Israël, affirmant qu'Israël devait d'abord lever les restrictions imposées au foot palestinien.
Inquiétude des deux sponsors officiels de la FIFA concernant les conditions de travail sur les chantiers de construction des stades du Mondial 2022. Ce sera au Qatar.
Oui, Coca-Cola et Visa ont fait part de leurs inquiétudes mercredi à la FIFA. Nous continuons à être troublés par les informations en provenance du Qatar liées à la Coupe du Monde et aux conditions de travail des migrants, a indiqué le groupe Visa dans un communiqué que cite l'agence France-Presse.
En handball, tableau des quarts de finale du championnat d'Afrique des clubs à Libreville, au Gabon.
Les dames étoiles du Congo jouent contre Abo Sport du Congo également. Phoenix du Gabon affronte l'Africa Sport de Côte d'Ivoire. Progresso d'Angola affronte le FAP du Cameroun. Et Héritage de la RDC jouera contre le Primero d'Angola. Et chez les hommes, le FAP du Cameroun joue contre le Club africain de Tunis. Stade Mangi du Gabon affronte les Flowers du Bénin. Al Ahly d'Égypte joue contre les Diables Noirs du Congo. Et enfin, l'Espérance de Tunis affronte l'Interclub du Congo.
Un mot du Giro, c'est du cyclisme, c'est le Tour d'Italie.
Oui, le Russe Ilnur Zakarin de l'équipe Katusha a remporté en solitaire la 11e étape du Tour d'Italie ce mercredi sur le circuit d'Imola. L'Espagnol Alberto Contador de Tinkoff a conservé le maillot rose des leaders après cette étape courte mais difficile en raison du parcours accidenté de 153 km et de la pluie. Ce jeudi, la 12e étape reliera Imola à Vicence où la ligne est installée sur les hauteurs au Monte Berico, accessible par une route au dernier kilomètre peintu. Et pour terminer, Nicolas, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, premier match de la finale de la conférence Est et le beau succès de Cleveland à Atlanta, 97 à 89. Excellent LeBron James qui permet aux Cavaliers de l'emporter grâce à 31 points. Et on remercie pour ce journal des sports, Bagassi Koura.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde. Aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission ce jeudi matin. On part pour le Burundi pour commencer. Légère inflexion du pouvoir burundais qui a accepté de reporter les élections législatives, mais de 10 jours seulement. La campagne électorale est prolongée jusqu'au 2 juin, mais en l'absence de médias indépendants et vu la tension qui règne dans le pays, cela est-il réaliste? Idriss Fall a joint Pacifique Nina Hazoué du collectif contre un troisième mandat à Bujumbura.
Le report est une bonne chose parce que c'était irréaliste de penser qu'on aurait des élections la semaine prochaine. C'est irréaliste d'autant plus que les partis d'opposition ne font pas campagne, il n'y a pas de sécurité pour les leaders de l'opposition et le CNDD est le seul pratiquement à faire campagne à ce moment. Ce serait irréaliste s'il avait maintenu le calendrier actuel.
Le report d'une semaine, vous pensez que cela suffira?
Cela ne suffit pas non plus parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les différents partenaires intéressés par ces élections. Est-ce que dans une semaine, l'opposition pourra organiser sa campagne? Est-ce que dans une semaine, le gouvernement pourra trouver les fonds pour financer ces élections du moment que certains partenaires ont décidé de ne plus continuer à financer ce processus électoral? Donc, je trouve que tout cela est irréaliste. Il est important qu'il y ait d'abord un débat sur les défis d'aujourd'hui, sur les questions qui se posent en ce moment.
Presque toutes les radios privées ne peuvent plus émettre. Donc, comment va se dérouler la campagne?
C'était incroyable qu'on puisse faire une campagne lorsqu'il n'y a pas de débat sur des médias indépendants, libres, lorsqu'il n'y a que la seule radio officielle du gouvernement qui ne fait que diffuser les messages du président Nkurunziza. C'est inconcevable et incroyable qu'on passe à une élection dans cette situation pour que les conditions sécuritaires ne le permettent pas en ce moment.
Est-ce que ce n'est pas une manière de faire oublier le débat de fond sur le troisième mandat de Pierre Nkurunziza?
Alors, si je pense faire oublier la question principale qui nous a mis dans la rue, il se trompe. Nous, on est en train de manifester parce qu'il s'est autorisé un mandat inconstitutionnel et qu'il viole l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation des Burundais. Tant qu'il n'y aura pas de réponse à cette question, de notre côté, nous allons continuer à manifester.
Apparemment, il semble ne pas vouloir reculer, hein, malgré les pressions et les demandes internationales.
On dirait que c'est un président qui n'entend rien, qui ne voit rien. Il vient de dire que la sécurité des Burundais est à 100% garantie. Il vient de demander aux réfugiés de rentrer immédiatement. Il vient de dire aussi qu'il n'y aurait que 4 quartiers qui manifestent en ce moment. C'est comme si c'était un président complètement dépassé, qui ne sait plus rien et qui ne peut que promettre la terreur comme réponse aux solutions que nous avons en ce moment.
Pacifique Nina Hazoué de la société civile burundaise, il était joint à Bujumbura.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan à nouveau sur la crise burundaise. Après le coup d'État avorté, appel au report des élections, une armée divisée face aux manifestations contre le président Nkurunziza, flux croissant de réfugiés vers les pays voisins. Faut-il craindre le pire pour le Burundi? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Voilà une décision qui n'est pas passée inaperçue vu le contexte lors de la 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À Accra, au Ghana, les dirigeants ouest-africains ont rejeté une proposition visant à imposer une limite au nombre de mandats présidentiels au plan régional. Le Togo et la Gambie, qui se sont d'emblée opposés à la proposition lors des débats, sont les seuls membres qui ne limitent pas à 2 le nombre de mandats présidentiels. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint Magloire Kwakubi, professeur à l'université de Lomé.
C'est une mauvaise acceptation de la modernité. Parce qu'on ne peut pas dire que dans nos us et coutumes, il n'y a pas la reddition de comptes. Il y a la reddition de comptes, mais dire qu'on va avoir des présidents à vie, ça n'a aucun sens sur le plan de la modernité. Je pense qu'il y a beaucoup de corruption qui sont à la base de certaines décisions. Parce que je ne pense pas que si l'on passait cette décision au vote pour la population, ce serait le mandat illimité qui serait accepté.
Comment explique-t-on le fait finalement que ce soit les chefs d'État eux-mêmes qui prennent ce type de décision pour eux-mêmes?
Comme a dit quelqu'un en Afrique, la politique c'est le plus court moyen de s'enrichir. Parce que il n'y a aucun contrôle du peuple sur l'enrichissement du président de la République. Donc, pour peu que les pays aient des atouts qui permettent de ramasser de l'argent sans rendre compte à qui que ce soit, on peut décider de rester en place à vie.
Quel signal envoie la CEDEAO avec ce type de décision?
Ça ne tiendra pas la route. Parce que les peuples ne sont pas dupes de la situation. Le Burkina Faso fait partie de la CEDEAO. Le Bénin fait partie de la CEDEAO. Et je ne crois pas que les peuples béninois, sénégalais et burkinabés soient d'accord pour que les mandats présidentiels ne soient plus limités.
Le professeur Magloire Kouakovi, président de la commission épiscopale Justice et Paix.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
On reste à Accra où une autre annonce a fait tousser de nombreux défenseurs des droits de l'homme. L'un des nouveaux entrants au Parlement de la CEDEAO n'est autre que Prince Johnson. Devenu sénateur du Liberia, cet ancien chef de guerre est plus connu pour les nombreuses atrocités dont il s'est rendu responsable en Afrique de l'Ouest dans les années 90. Très violent, il avait notamment torturé à mort l'ancien chef d'État libérien Samuel Doe pour une réaction Bagassé Kourin a joint à Liountine d'Amnesty International.
Pour ceux quand même qui ont suivi le conflit armé entre 89 et 2003, où il y a eu près de 250 000 morts, mais sa responsabilité en tant que chef de guerre a été engagée, et je dirais lourdement engagée, tout le monde le sait. Engagée également sa responsabilité dans la mort atroce de Samuel Doué, et on n'a pas fini. Même dans l'assassinat de Thomas Sankara, on a cité son nom. Alors, très sincèrement, c'est quand même un très mauvais signal qu'on envoie aux citoyens ouest-africains avec son élection à la CEDEAO. Et ça va être très certainement un coup sérieux porté à la crédibilité de cette institution. Nous sommes tous étonnés de cela.
Et même s'il s'est converti à la démocratie et qu'il a déposé les armes depuis?
Je dirais même s'il s'est converti à la démocratie et même à la chrétienté, hein, parce que aussi sa conversion est bien opportuniste. On sait les raisons pour lesquelles il n'a pas soutenu William Tubman, l'opposant, parce que celui-ci effectivement prévoyait appliquer les recommandations de la commission Vérité et Réconciliation. Et si effectivement c'était recommandé, mais il serait jugé pour les crimes abominables, les crimes internationaux, imprescriptibles qu'il a commis. En réalité, au lieu qu'il soit jugé par les États, parce que c'est ça qu'on attend des États de la CEDEAO, maintenant il est, parlementaire, ça ne doit pas être flatteur pour ses autres collègues.
Alors s'il a pu commettre tous ces crimes, comment est-ce qu'il se retrouve là? Est-ce qu'il a bénéficié de l'amnistie?
Mais écoutez, c'est un peu une façon de blanchir les anciens criminels de guerre, hein, parce que c'est un tout petit peu un chantage à la paix, à la stabilité, qui fait que, on pense que vraiment, en l'élisant, Monemba, c'est un seigneur de guerre. Lui-même, il dit que les gens sont sous mon parapluie. Pour être élu aussi, ça amène des compromissions de cette nature, alors que tous les deux candidats auraient dû avoir au moins un consensus sur le règlement de l'impunité, être intransigeant sur le traitement de l'impunité.
Aloudine d'Amnesty International, il était joint à Dakar.
Que pensez-vous de l'éducation sexuelle à l'école? Bonjour, c'est Nathalie Barge. Pour participer à l'émission interactive du magazine au féminin de VOA Afrique ce jeudi à 18h temps universel, envoyez vos coordonnées sur notre Facebook. À très bientôt.
Retour aux États-Unis où le président Barack Obama a déclaré que le changement climatique posait des risques immédiats pour la sécurité nationale américaine. En cause, la hausse possible des catastrophes naturelles. Le chef de l'exécutif américain a tiré la sonnette d'alarme en s'adressant aux jeunes officiers de l'Académie des gardes-côtes à New London, dans le Connecticut, comme nous l'explique Michel Joseph.
Selon M. Obama, les effets du changement climatique affecteront les forces armées américaines dans la défense de leur pays. Il a ajouté que le monde doit agir d'urgence pour combattre les effets du réchauffement de la Terre. Le changement climatique, particulièrement la hausse du niveau de la mer, constitue une menace à la sécurité de notre pays, notre infrastructure économique, la sécurité et la santé du peuple américain.
Climate change poses a threat.
Le changement climatique pose une menace à l'état de préparation de nos forces. Beaucoup de nos installations militaires sont sur la côte, y compris, bien sûr, les stations de garde-côtes. Autour de Norfolk, en Virginie, les grandes marées et les orages provoquent de plus en plus d'inondations sur certaines zones de notre base navale et de notre base aérienne. En Alaska, la fonte du permafrost endommage nos installations militaires. À l'ouest, les sécheresses prolongées et les incendies pourraient menacer des zones d'entraînement dont dépendent nos troupes.
Vous faites partie de la première génération d'officiers qui va commencer à servir dans un monde où les effets du changement climatique se font clairement sentir, a encore dit le président, aux jeunes officiers. Selon lui, ce changement climatique va façonner comment chacune des branches de l'armée américaine opère, s'entraîne, s'équipe et protège ses infrastructures, capacités aujourd'hui et dans le long terme. Selon la Maison-Blanche, le Pentagone a lancé une étude pour évaluer la vulnérabilité des quelque 7000 bases et installations de l'armée américaine en raison des effets du changement climatique qui, a averti M. Obama, n'épargne aucune nation du monde et augmente les risques d'instabilité et de conflits dans le monde. Le président a parlé d'une augmentation prochaine du nombre de réfugiés climatiques et il a recommandé une utilisation accrue de l'énergie solaire et éolienne, de voitures consommant moins d'essence et une réduction des gaspillages d'énergie. En réaction aux déclarations du président Obama, le sénateur républicain John Barroso du Wyoming a ridiculisé l'idée selon laquelle le changement climatique serait une menace à la sécurité nationale.
Les Américains comprennent qu'il y a des menaces beaucoup plus immédiates pour notre nation, la chute de Ramadi en Irak et les attaques brutales de terroristes du groupe État islamique. Il s'agit là d'exemples clairs de la menace réelle à laquelle le président doit s'attaquer.
Pour sa part, le président a ironisé « Je sais qu'il y a encore des gens à Washington qui refusent d'accepter la réalité du changement climatique. » À ceux qui aiment à dire, en guise d'argument, « Je ne suis pas un scientifique », M. Obama a rétorqué « La science est indiscutable, la planète se réchauffe. »
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Awesome. Aye. Yeah. Okay. Peace Square in it. Oh, yeah. TFP. Hey. Hit the king in it. Hey. Yeah. You know. I know you heard about it. Go.
Some fun tonight, yeah. Out on this day morning, so we can do whatever we like. We go to US, Nigeria, Korea, Ghana, Peru, DJ, turn it up wherever you are. We go bazooka, we super, we know the tire. Hey, DJ, turn it up, I like it, yeah. We take it.
Maïdja Music sur VOA Afrique. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, on va saluer à Abidjan, Côte d'Ivoire, Lassina Thioté et à Conakry en Guinée, Oumar Kobalabari. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet voafrique.com. Soyez au cœur de l'info.